Donc on prend la Mishnah Guimel. Donc on est au premier chapitre de Baba Kama, Mishnah Guimel, Mishnah numéro 3. Notre Mishnah va continuer à nous enseigner des principes, avant de rentrer dans les détails. Dans la Mishnah suivante, on va rentrer dans les détails, mais là on parle encore des principes dans les lois des dommages. Donc comment on va fixer des principes pour fixer qui doit payer quoi, d'accord? Sur quel témoignage on peut se baser pour payer, enfin, des principes, des bases. Après, on va rentrer dans les détails. Donc la Mishnah nous dit la chose suivante, elle nous dit Shum Kesef. D'accord? Shum Kesef, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'évaluation d'un dommage ne doit se faire que Kesef, ça veut dire avec de l'argent. Ça veut dire quoi avec de l'argent? D'accord? Ça veut dire que bon, il y a toute une explication dans la Gemara, il y a plusieurs explications dans la Gemara pour expliquer ce que ça veut dire. Mais a priori, ça veut dire que, à l'époque, lorsqu'une personne faisait un dommage, imaginez-vous que ma vache fait un dommage, et qu'elle endommage par exemple un talit, un endommage d'un vêtement. Alors il y a des gens à l'époque, il y avait d'autres jurisprudences dans lesquelles on disait, puisqu'elle a endommagé un vêtement, dans ce cas-là, il faut rembourser le vêtement, et par punition, on va demander à la vache de porter ce vêtement-là pendant une durée de temps, pendant un mois ou pendant
La
2 mois.
vache.
La vache.
Elle va porter un talit.
Elle va porter dessus.
Avec ou sans bras?
Ah, c'est un exemple. Ça veut dire
D'accord.
qu'on s'est arrangé pour punir aussi l'animal.
D'accord.
C'est un exemple hein, que la Gemara donne. Alors c'est pour ça que la Mishnah vient et dit Shum Kesef. Shum Kesef, ça veut dire que l'évaluation d'un dommage, d'accord, doit être faite uniquement Kesef avec de l'argent. Ça veut dire que le dommage doit être évalué dans l'argent. Il y a plusieurs explications dans la Gemara, hein, je vais donner une seule. Ensuite, la Mishnah nous dit Veshavé Kesef. Ça veut dire quoi, Shavé Kesef? Shavé Kesef, ça veut dire que si maintenant, donc ça c'est encore une fois la Mishnah, la Gemara qui explique, parce que si on lit la Mishnah, on ne comprend pas. Si maintenant une personne, imaginez-vous qu'une personne, son taureau a endommagé. Il a endommagé, il doit rembourser. Entre-temps, il meurt. Qui doit rembourser?
Les héritiers.
Les héritiers. D'accord? Normalement, qu'est-ce qu'on avait expliqué? On avait dit que, vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière, on a dit que celui qui s'est fait endommager a le droit de se servir des terrains de celui qui l'a endommagé. On est d'accord?
Et la meilleure parcelle.
Et la meilleure parcelle, exactement. Si maintenant ce terrain est passé aux héritiers, il est mort, donc ce terrain est passé aux héritiers. Donc la question qu'on se pose, c'est quoi? C'est est-ce que dans ce cas-là, on lui permet toujours d'aller se servir du terrain? On dit a priori oui.
Ou d'une valeur.
D'accord? Ou d'une valeur. C'est pour ça qu'elle vient à la Mishnah, elle nous dit non. Elle nous dit Shavé Kesef, ça veut dire quoi? Shavé Kesef, ça veut dire que, alors ça explique la Gemara, et explique que dans le cas des orphelins, on a le droit de se servir uniquement des terrains. Mais du mobilier, on n'a pas le droit de se servir. Si la personne était toujours vivante, on a le droit de se servir soit de l'immobilier, soit du mobilier. De ce qu'on trouve et de ce qui nous intéresse. On est d'accord? Mais si la personne entre-temps est décédée, qu'on va se servir chez les héritiers, la Gemara explique pourquoi. Elle nous dit que on a le droit de se servir uniquement des terrains. Puisqu'on considère qu'un terrain, c'est quelque chose qu'on sait qui va servir d'abord pour payer les créanciers. Mais tout le mobilier, interdiction de toucher.
On parle d'argent, là.
D'accord? Oui, bien sûr. L'argent, mais là, l'argent...
Parce que le mobilier, c'est l'argent.
Veshavé Kesef. Et ensuite, d'accord, on nous dit Bifne Beddin, Ve'alpi Edim. Alors, l'évaluation des dommages et l'obligation de payer ne se fait uniquement devant un Beddin. Qu'est-ce qu'on entend par un Beddin? On entend par un Beddin, ça veut dire, vous savez, dans la Gemara, on explique qu'il y a ce qu'on appelle un Beddin de Mumprim et un Beddin de Hedyotot. Un Beddin de Mumprim, ça veut dire un Beddin de professionnel, donc des experts, d'accord? Et un bedin de Hedyotot, c'est un bedin qui peut avoir 3 personnes qui ont pris la halakha, mais qui ne sont pas forcément experts. Alors ce qu'on nous apprend ici, c'est que l'évaluation d'un dommage doit être faite devant un expert. D'accord? On est obligé. Et que même si les deux ils disent non, mais non, nous on va s'arranger à l'amiable, etc., on les encourage fortement à aller voir un expert. Pourquoi? Parce qu'on considère que même si à ce moment-là ils se sont arrangés, il est très possible qu'un an plus tard, il te ressort, il te dit oui, mais en vérité, on a mal évalué, etc. C'est pour ça qu'on ne rentre pas dans ce jeu. Dès qu'il y a un dommage, on va avoir un bed-in de Mumprim, donc un bed-in de professionnels, un bed-in d'experts, de gens qui ont l'habitude de le faire, d'accord, qui ont les compétences. Pas seulement des gens qui ont étudié le halakha dans Shulchan Aruch, mais des gens qui ont des compétences pour ça. Pour pas qu'après vers derrière ils reviennent et que bon après ça, on peut faire tourner ça.
Coup d'homme,
quoi. Ve'alpi Edim.
Pourquoi tu retournes le couteau?
D'accord. Ve'alpi Edim. Ve'alpi Edim et donc également, Alpi Edim avec des témoins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut avoir, quand on va arriver devant le tribunal, la première chose qu'il va demander, il va dire, amenez-moi des témoins. vous me dites que vous avez été endommagé, amenez-moi des témoins. Donc le Bedin va demander en d'autres termes un maximum de preuves, et après, les experts du Bedin vont être là pour évaluer, bon, alors qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Donc il leur faut deux choses.
D'accord ?
Il leur faut tout d'abord un expert pour évaluer, mais à part ça, il faut des témoins qui vont nous témoigner, qui vont dire voilà ce qui s'est passé. Et après, l'expert va dire, bon, bah si c'est ça ce qui s'est passé, ça vaut autant. Donc c'est un petit peu comme les assurances d'aujourd'hui. Valpi est dit, donc il faut des témoins. Bnei Chorin, Bnei Brit. Alors ces témoins doivent être des témoins qui sont libres, c'est-à-dire qui ne sont pas esclaves. D'accord ? Un esclave, comme explique la Gemara, un esclave est inapte à témoigner. Puis on considère que des fois un esclave, il peut se dire, si je vais témoigner, je vais lui dire en sa faveur, peut-être qu'après il va s'arranger pour en sortir, etc. Donc une personne qui n'est pas libre, on n'a pas le droit de témoigner. Et également le disciple Bnei Brit. C'est le prof Bnei Brit. Hein, Bnei Brit, littéralement, c'est comme Bnei Brit.
C'est une association européenne, mondiale.
Circoncis.
C'est ceux qui sont circoncis. Alors, oui. C'est une manière jolie de dire des juifs. D'ailleurs, dans le Birkat Amazon, dans certains Birkat Amazon, vous avez, je le retrouve aussi un certain site de Rumsparad.
Ouais. Bnei Brit.
Vous avez Kenny Varech Otanu, donc Moshe Barach Tavotenu Abraham Yitzhak Yaakov, Bakol Mikadot, Kenny Varech Otanu, etc. D'accord? Alors, entre parenthèses, dans certains Sidurim, juste après Kenny Varech Otanu, vous avez écrit entre parenthèses Bnei Brit. Mais c'est même pas avec les voyelles, hein, c'est juste en petit. Pourquoi Bnei Brit? Parce que dans le cas, si on est dans une salle dans laquelle se trouvent des non-juifs, dans ce cas-là, on doit dire Kenny Varech Otanu Bnei Brit, ça veut dire on doit dire que la bracha qu'on demande, c'est particulièrement pour les juifs. C'est spécial, c'est important. Quand on arrivera au Birkat Amazon, on devrait expliquer ça, parce que bon.
Mais les brachot du matin aussi, Ben Berry.
Oui, non, mais là, c'est spécial, là. On te dit, s'il n'y a pas de juifs, tu dis Kaniva Rotanou tout court. Ouais. Si, pardon, il n'y a que des juifs, tu dis Kaniva Rotanou. Et s'il y a des non-juifs aussi, tu dis Kaniva Rotanou, Ben Berry. C'est peur. C'est peur, attends.
Les Américains, ils sont bien nous en Amazon.
Oui,
bien sûr. Alors nous aussi, on vous en
On va y arriver. Quand on arrivera au Birkat Amazon, je vous expliquerai pourquoi. Parce que c'est pas simple. Donc, Bnei Chorin, Bnei Brit.
Là, avant rien.
T'as pas besoin. Avant rien, non. Je fais que des previews, moi.
Les promos, c'est le mois prochain.
Donc, Bnei Chorin, Bnei Brit. Ve'anashim. D'accord? Bichlal Anezek. Alors, la femme est considérée comme l'homme par rapport au dommage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, normalement, on sait très bien que les femmes n'ont pas les mêmes lois que les hommes. Pourquoi? C'est par exemple, on sait qu'une femme, par exemple, ne veut pas toujours témoigner, etc. Alors ce qu'on vous apprend ici, c'est que pour tout ce qui est dommage, une femme est considérée comme un homme. Ça veut dire quoi?
Même pour le témoignage?
Ça veut dire qu'une femme qui est endommagée... Non, pas du témoignage. Pour le dommage.
D'accord.
C'est-à-dire qu'une femme qui est endommagée, elle doit rembourser comme un homme. Elle va dire oui, mais moi je suis deuxième catégorie, hein, quand elle veut. Donc non, elle doit rembourser comme un homme. Pareil, une femme qui s'est faite endommager, c'est comme si c'était un homme. C'est la même chose. Parce que dans la paracha Mishpatim, on verra après, on a des exceptions quand par exemple, si mon taureau est endommagé, l'esclave de quelqu'un d'autre. C'est pas la même chose. Que si j'avais endommagé une personne qui était libre. C'est pas la même chose. Il y a des halakhot qui changent. Ouais. Mais une femme et un homme, c'est la même chose. Que ce soit qu'elle l'a endommagé, ou que ce soit qu'elle s'est faite endommager, c'est considéré la même chose. De toute façon, on doit rembourser de la même manière. Vean Nizak, Vean Mazik, Betashloumin. Alors, ça veut dire quoi, Vean Nizak, Vean Mazik, Betashloumin? Ça veut dire que, ça, en vérité, on va l'expliquer dans la Mishnah suivante. On va expliquer que, des fois, les deux vont participer au dommage. Alors, ça veut dire quoi, les deux vont participer au dommage? C'est-à-dire que des fois, par exemple, mon taureau va encorner la vache d'un autre, et que on va décider que je paye uniquement 50%. Donc, si je paye 50%, ça veut dire que les deux, on a payé une partie du dommage. C'est ce que ça veut dire. Ouais. 50-50. D'accord? Comment ils appellent ça chez les assureurs? 50-50? Ouais, il y a un mot pour ça, non?
Prépartagé?
C'est 50-50, ils disent.
Voilà, responsabilité partagée.
Ouais. Ils ont tous les deux du malus.
Ça veut dire quoi? Alors, dans la Mishnah, on appelle ça comment? Ça veut dire, on dit que les deux ont payé. C'est ça. Vean Isaac, Vean Mazik, Vean Tachloumi.
Je crois que c'est comme ça.
Dans certains cas, celui qui s'est fait endommager et celui qui est endommagé, les deux vont devoir payer en même temps. Donc là, vous avez compris, dans cette Mishnah, on n'a pas donné de halakhot particulière, on a donné des principes. Les principes qu'on a donnés, c'est que dans certains cas, on peut récupérer que de l'immobilier et pas du mobilier, dans le cas des orphelins, par exemple. On a expliqué que dans tous les cas, on a besoin des experts pour évaluer, on a besoin de témoins, et que ces témoins doivent être des hommes libres et doivent être des juifs. D'accord? Homme ou femme, pour l'instant, a priori. Hein, pour l'instant, on n'a pas rentré dans la table, a priori, la femme aussi peut être témoin, d'après ce qu'on voit pour l'instant. On a expliqué, également, qu'une femme qui se fait endommager ou une femme qui endommage a autant de responsabilités comme un homme. D'accord? Et enfin, on a expliqué dans la Mishnah, on a dit que dans certains cas, il y a responsabilité partagée. Donc dans le langage de la Mishnah, ça veut dire que les deux ont payé. Alors c'est quoi ces cas? On passe tout de suite à la Mishnah d'Alet. D'accord? La Mishnah d'Alet nous dit la chose suivante. Elle nous dit, si, donc je vais vous dire le pasouk de la Parasha Mishpatim, qui n'est pas écrit dans la Mishnah, elle dit, Vechi gov shor ish et shor reu vamet. S'il y a le taureau d'un homme qui a encorné le taureau donc d'un autre homme. Imaginez-vous, j'ai un taureau, il endommage le taureau d'un autre homme, vamet et il est mort. Le taureau en est mort. D'accord? Ou machu et shor achai, qu'est-ce que nous dit la Parasha Mishpatim? On devra vendre le taureau vivant. Vechatsu et kaspo, et on devra partager son argent en deux. C'est-à-dire, par exemple, on va vendre le taureau, on va le vendre, je sais pas combien, 2000 euros, d'accord? 1000 euros chacun.
Et le mort.
Vegam et amet, yechetsu. Et le mort aussi, on le partage en deux. Parce qu'il dit, oui, je suis bien d'accord, je veux bien te rembourser la moitié, mais...
Mais le taureau mort, il ne vaut plus rien, parce qu'on peut pas le manger.
Non, la
et
peau,
il y a la peau,
ça,
il y a beaucoup de choses.
Reste,
bah oui.
On va le manger.
Enfin, pas le manger, il travaille plus non plus. Il dit, mais attends, mais moi, mon taureau, il serait mort dans 10 ans.
Non mais je veux dire, ouais, ça.
D'accord, mais ça vaut quelque chose.
Les gourmands.
Donc on doit te dire ça.
L'animal mort, là.
Bon. Mais après, il dit le verset. Pas pour manger. C'est pour
le corps, la peau, la graisse pour faire les bougies.
Maintenant, après la paracha, mais je peux t'imaginer. Onoda kishor nagarou. Si maintenant, on sait, on a appris, c'est-à-dire que le Beddin savait que ce taureau est un taureau qui est en corne. Mitmol shilshom, depuis hier et avant-hier. Alors hier ou avant-hier, alors on verra, parce que c'est pas simple. À partir de combien de fois on considère que c'est un taureau qui est en corner? Est-ce que c'est au bout de deux fois ou au bout de trois fois? Du verset, on peut pas savoir, parce que le verset, il te dit hier et avant-hier, apparemment, c'est une expression. On verra dans la Mishnah. Donc, si le Beddin nous dit, écoutez, monsieur, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas la deuxième fois, c'est la troisième fois que ça arrive, et vous n'avez pas gardé votre taureau, là, on peut plus dire 50-50.
Ah oui.
C'est à vous de faire attention. Dans ce cas-là, shalom, 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 short achat achor, vehamet yellow. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, écoutez, monsieur, ce que vous faites. Nous dit donc le pasouk de la paracha Mishpatim, il dit, la personne, donc le propriétaire du taureau qui est encore né, on prend son taureau, on va réquisitionner son taureau, on dit, voilà, on prend votre taureau, on va le donner à l'autre. Il dit, oui, mais il y avait un cadavre. Il dit, pas de problème, prenez le cadavre, il est pour vous. On est d'accord?
Oui, si c'était s'il avait un vilain taureau,
ah,
un très très beau
là, pour
taureau.
L'instant, on parle de la base, que les deux valent la même chose. Ça, on n'a pas encore parlé de ça. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appellera plus tard, dans la Mishnah, avec l'appellation Tam et Mouad. Tam, rappelez-vous, Tam, Mouad. D'accord. Tam, c'est comme dans la Haggadah. La Haggadah, le Tam, c'est qui est le Tam? C'est l'enfant qui est le simple. Donc, on a un taureau simple, celui que, bon, on ne savait pas qu'il allait encorner. On a le taureau Mouad. Dans le terme Mouad, on l'a dit dans l'introduction avant de commencer, on a le terme Aed. Aed, ça veut dire quoi? Aed, ça veut dire témoin. Et ça veut dire aussi, Rouad, ça veut dire aussi prévenu. D'accord. Donc là, Mouad, c'est un taureau qui a été prévenu. Tam, Mouad. Donc c'est deux catégories. Au bout de deux ou trois fois, comme on verra, il est considéré prévenu. Et donc là, dans ce cas-là, c'est plus 50% du dommage qu'il doit payer, mais c'est 100% du dommage qu'il doit payer.
On va des témoins pour les deux fois.
Alors,
les deux ou trois fois précédentes.
C'est bien sûr. Bien sûr, il faut avoir des témoins.
C'est ça, qui l'ont vu les deux ou trois fois précédentes.
Ceci dit, oui, bien sûr. Ceci dit, il y a des cas dans lesquels, ça on n'a pas développé, on développera pas dans la suite, il y a des cas dans lesquels, dès la première fois, on est responsable de 100%. Quel cas? Par exemple, si mon taureau est passé dans un champ, bon, il y avait un passage, il est passé dans un champ, il a mangé ce qu'il y avait à côté. Là, on considère que je sais qu'un taureau, il a faim, il va manger. Donc là, on considère que dès le début, je suis responsable de 100% du dommage. Deuxième cas, si mon taureau, il a envie d'aller quelque part, et il passe à côté d'un champ, il marche dans le champ, et il écrase tout, il casse tout. D'accord? C'est normal, on sait qu'un taureau il peut marcher n'importe où, on sait qu'il faut le contrôler constamment. Là, dans ce cas-là, c'est la même chose. On considère qu'il n'y a pas besoin d'être prévenu. Dès le début, on paye 100% du dommage. Bon, mais là, dans notre cas, on ne parle pas de ce cas-là. On parle d'un cas d'un taureau qui a encorné un autre. Il marchait dans la rue et tout d'un coup, il prend une crise, il envoie un coup à un autre taureau. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas ce qui s'est passé.
Tu sais le taureau d'hier, qui a été prêté, loué.
Alors, Hamisha Tamin va Hamisha Mouadin. La Mishnah ici va nous citer 5 catégories, 5 cas dans lesquels l'animal va être considéré comme tam. Donc rappelez-vous, tam, ça veut dire quoi?
Simple.
Ça veut dire simple. Vachamisha Mouadim, et il y a 5 cas dans lesquels on va considérer que la personne est responsable. D'accord? Donc la Mishnah explique. Elle dit, Abema et Namouedet. On considère qu'un animal n'est pas mouad, ça veut dire n'est pas considéré prévenu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse au moins 2 ou 3 fois pour être considéré prévenu. Dans les 5 cas suivants. L'oligarque, ni pour encorner. Ça veut dire que on considère qu'un animal normal, un taureau normal, ne doit pas encorner. Il n'y a pas de raison qu'il encorne. Donc s'il a encorné, il faut, pour être responsable de 100% des dommages, c'est pas dans sa nature.
Donc il y a un bœuf, pas un taureau, parce que le taureau, il a l'habitude d'encorner.
Alors, on va voir. L'oligarque, ni d'encorner, d'accord. Donc quand on dit encorner, c'est avec ses cornes. Mais l'oligophe, d'accord. Dans le mot goff, on a le mot gouffe. Gouffe en hébreu, ça veut dire quoi?
Le corps.
C'est-à-dire ni de pousser avec son corps. Pousser avec son corps comme ça, d'accord. On considère que l'animal, à un moment, il n'a pas de raison de le faire. S'il le fait, c'est qu'il est énervé, mais normalement, un animal normal qui a mangé, il n'a pas de raison de le faire. Donc, encore une fois, dans les 5 cas qu'on va citer ici, ça veut dire que les deux et trois premières fois, on verra après d'ici 2 ou 3, on a une responsabilité uniquement à 50%. Donc, ni pour encorner, ni pour endommager avec son corps, donc pousser avec son corps. Vélo lichor. Chargé, il appelle ça ici?
Non, je dis, quand un taureau, il pousse avec son corps, il charge.
Il charge. C'est vrai qu'on appelle ça charge aujourd'hui.
Chargé, c'est rué.
Ouais. Vélo lichor. Le lichor, c'est quoi lichor?
Rué, c'est pas derrière.
Le lichor, ça veut dire mordre.
Mordre.
Ni pour mordre. Vélo lirbot. D'accord? Et ni pour s'accroupir sur un objet et le casser. Un taureau, il voit un objet, comme ça, il se fait un kiff. Il s'écrase dessus. Il s'assoit dessus et il écrase. Il dit que normalement, un taureau normal, il n'a pas de raison de le faire. D'accord. Vous pouvez dire un bœuf si vous préférez, mais bon, c'est la même chose.
Non, c'était le tour, on n'avait pas le droit.
Vélo livrotte et ni de donner un coup de pied. D'accord. Donc tous ces 5 cas qu'on a expliqués ici, c'est 5 cas qui sont des variantes, pour ceux qui étaient là dans le premier cours, de keren. Ce sont des variantes de keren. Keren, en hébreu, ça veut dire la corde. Voilà, keren, corde. Donc tous ces 5 cas qu'on a dit ici, c'est des variantes de keren. Ça veut dire que c'est des choses que l'animal, normalement, ne doit pas faire. Et que c'est seulement au bout de 2-3 fois qu'on se rend compte que l'animal a une nature d'encorneur. Et une nature d'endommageur. Mais normalement, il le fait pas. Donc 5 choses. C'est quoi les 5 choses qu'on a dit? Allez, vous rappelez les 5 choses? Encorner. Charger. Après.
Mordre.
D'accord? Après. S'accroupir. D'accord? S'accroupir sur quelque chose d'objet. Et on a dit de donner un coup de pied. Donc dans ces cinq cas-là, on considère que l'animal, les premières fois, est considéré tam, est considéré non responsable. Enfin, responsable à 50%.
Excuse-moi, on parle que du taureau, là? Parce que c'est un cheval.
Ils disent même pas taureau, ils disent l'animal.
Oui, animal.
Un cheval, ça rue.
Parce que dans le...
Il n'a pas de corne.
Dans le cadre de... Parce que dans la Torah, c'est écrit shor. Shor, c'est un taureau.
Mais si c'est un cheval?
Oui. Encore une fois, bon, après on doit utiliser notre bon sens. C'est que si on sait que cet animal, c'est normal qu'il le fait, dans ce cas-là, ça est directement moine. D'accord.
Il est cite après.
Oui. Alors, Hachen, maintenant. Maintenant, on va parler des cas qui sont moines. Rappelez-vous, on a aussi également 5 cas. Hachen, moedet. Donc, la dent. D'accord. La dent, rappelez-vous, ça veut dire quoi, la dent? C'est quoi la dent? Vous rappelez, on l'a vu ça dans l'introduction du premier chapitre. C'est quoi la dent? La dent, ça veut dire le fait que l'animal a envie de... Qu'est-ce qu'on fait avec les dents? On mange. Donc, Hachen Mouedet, les Rolataraouila. Donc, 5 cas dans lesquels l'animal est responsable directement à 100%. Enfin, le propriétaire de l'animal est responsable à 100%. Premier cas, c'est la dent. C'est-à-dire lorsque l'animal mange. On considère que l'animal a faim. Et lorsqu'il a faim, c'est comme un enfant. D'accord? Un enfant, lorsqu'il a faim, il prend ce qu'il trouve. Il va pas te demander est-ce que je peux prendre des 50%. Un enfant, lorsqu'il a faim, il prend ce qu'il trouve. De la même manière, d'accord? La vie, un animal. Lorsqu'il a faim, tu peux pas dire oui, mais je savais pas, etc. Un animal, lorsqu'il a faim, il passe à côté de la nourriture, il fait ce qu'il faut pour manger. Donc ça rentre dans la catégorie de chaîne. Et ça, on est responsable directement de... On est responsable directement de 100% des dommages. Donc, Hachen Mouedet, les Rolataraouila. Donc, là-dedans, l'animal est considéré à 100% responsable pour manger. Et Taraouila, ça veut dire ce qui lui est apte à être mangé. Qu'est-ce qu'un animal, il mange normalement?
De l'herbe.
D'accord? Il mange de l'herbe, il peut manger également des fruits, il peut manger également des légumes, il peut manger ça. D'accord? Donc tout ce que l'animal peut manger, on considère que sur ça, l'animal est responsable à 100%. Mais si, c'est quelque chose que l'animal ne mange pas. Un animal s'est mis à encorner, il a fait les 400 coups pour manger quelque chose, mais qu'il ne mange pas normalement, qu'il n'est pas bon, qu'il ne doit pas manger. Là, dans ce cas-là, est-ce que je suis responsable à 100%?
Non.
50%.
C'est imprévisible.
En nature.
Bon, on a quand même une responsabilité.
Oui, 50%. À Régel, Mouedet. De la même manière, Régel, c'est le pied. Ça veut dire quoi, le pied? Le dommage qu'ils sont causés avec le pied, ça veut dire quoi? Je viens de le dire. Ça veut dire un animal qui marche. Alors, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un animal, il marche droit comme un homme. D'accord? Un animal, la nature des choses, il peut piétiner, il peut aller un peu à droite, un peu à gauche. Et donc là, effectivement, puisqu'il peut le faire, donc on est responsable à 100% des dommages dans ce cas-là. Véchor Amouad. D'accord? Donc, ah oui, non, pardon. Aregel mouedet le chaber bederech ilucha. Donc le pied, pareil, est considéré responsable. Donc l'animal est considéré responsable pour endommager. Le chaber bederech ilucha pour casser bederech ilucha dans son chemin.
Là, hein.
D'accord? Bederech ilucha, ça veut dire quoi? Bederech ilucha, vous avez pas?
Non, non.
Mais autre chose.
Qu'est-ce que vous avez?
Le pied est habitué à pisser que son chemin.
Aregel mouedet le chaber le olam.
Ah non, bederech ilucha, non, non.
Ma ben tam.
Je t'ai traduit en français. Comment
ça
s'appelle?
Adam est habitué à dévorer.
Oui, après.
Assurer ce qui lui est propre. Le pied également est habitué à ne pisser
que son chemin.
Que son chemin.
C'est une erreur, c'est pas le olam.
Que son chemin.
Non, habituellement, le olam.
Non. Ah non, vous voyez bien dans la traduction. Non, non, c'est pas ça. Enfin.
Maudit un chemin.
Oui, mais là, c'est.
Bederech ilucha.
On parle de sa façon de faire.
Je sais pas si on trompait, c'est une autre version qu'ils avaient.
Le olam.
D'accord. Bederech ilucha, ça veut dire quoi?
Réédition et il y a des.
Bederech ilucha, ça veut dire le chemin. Le chemin qu'elle prend. C'est-à-dire que si c'est le chemin normal qu'elle prend, et que bon, elle est partie un peu à droite, un peu à gauche, elle est responsable. Parce que c'est normal, on pouvait s'y attendre. Si par contre, il a pris un chemin complètement différent, tout d'un coup, t'as perdu le contrôle et il est parti, là, tu vas dire, attends, je m'attendais pas. Là, c'est quelque chose qui était imprévisible. Mais si c'est son chemin, je suis responsable à 100%. Véchar Amouad, et bien sûr, troisième cas, c'est, donc on l'a dit, la dent, c'est-à-dire pour l'animal qui a envie de manger, l'animal qui piétine dans son chemin, et bien sûr, Véchar Amouad, un taureau qui a été prévenu, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il ne fait pas normalement. Par exemple, les cas qu'on a cités avant. Par exemple, il a encore né, mais il l'a déjà fait plusieurs fois, on l'a déjà prévenu. D'accord? Il l'a fait trois fois. On verra après, il y en a qui disent deux fois, mais on va dire trois fois. Donc, pareil, là aussi, une fois qu'il a été prévenu trois fois, il est responsable à 100%. Ainsi que Véchar Amazik Birchut Anizak. Ainsi que un taureau qui a encore né dans le domaine, d'accord,
de la victime.
Ça veut dire quoi, par exemple? Imaginez-vous, quelqu'un, il rentre chez moi avec son taureau, sans prévenir. Il rentre, il vient, il fait un dommage. Il dit, oui, mais attends, moi, je vais dire, le premier, il va dire, oui, mais je m'attendais pas à ce qu'il fasse un dommage. Mon taureau n'a jamais encore né. Il rentre, il voit l'animal de l'autre, il lui décolle une droite et l'animal meurt. D'accord? Alors, le premier, il va dire, mais écoutez, mais moi, je m'attendais pas à que mon taureau n'a jamais encore né. C'est vrai, c'est pas un menteur, il a jamais encore né. Sauf que, comme ça s'est passé dans le domaine de la victime,
donc,
il n'empêche de rentrer. Non, je t'ai rien demandé. Excuse-moi, je suis chez moi à la maison, tu viens, tu...
Déjà, tu rentres chez moi avec ton machin, et en plus, il plante mon taureau!
D'accord? Donc, ne dis pas, non, mais c'est vrai, il a un bon argument, je dis, mais c'est vrai que je m'attendais pas. Moi, pour moi, je m'attendais seulement que je passe, alors, le cas, ça peut être un cas, par exemple, il a envie de prendre un raccourci, il passe par le champ de son ami. C'était des cas très fréquents à l'époque. Des fois, pour couper le chemin, passer, on dit, bon, ça va, il verra pas, je vais passer, etc. Et l'animal, en passant, il voit un autre animal, d'accord, et chut, il l'a jamais fait, on sait pas pourquoi.
Mais passer, c'est pas
d'accord.
Passer comme ça,
ça dépend. Ça dépend, oui.
Ça dépend.
Après, t'es privé.
Ouais.
Même passer.
S'il y a des barrières, par exemple, etc., c'est ça.
Il
n'a pas le droit.
Mais avant, il n'y avait pas tellement de barrières, hein.
C'est sûr. Ah oui, il veut pas que ses chansons soient abîmées.
Obligé qu'on mette des barrières. Et des bornes, etc.
Il a raison que s'il n'y a pas de barrière, on a le droit de passer.
Oui.
On considère que le propriétaire fait le droit de
passer. Même aujourd'hui, il faut que les barrières soient
physiques. Non, il faut que la barrière soit physique.
Physique, c'est ça. Hein. Parce que c'est juste simplement signalé par des petites.
Non, ça vaut rien. Ça.
On peut passer, on peut passer.
Il fallait mettre une barrière.
C'est ça. T'as pas
n'oubliez pas qu'à l'époque, les champs étaient se trouvés dans des vallées, etc. Et que des fois, on était obligé de passer.
C'est ça.
Surtout que des fois, il y a des raccourcis. On peut pas non plus.
C'est énorme.
Alors, celui qui veut pas qu'on passe par son champ,
il met une barrière.
C'est des religieux qui mettent des champs.
Alors, V.A. Adam, ainsi que l'homme. Un homme qui endommage. D'accord? Comment un homme peut endommager? Un homme, il endommage, par exemple, sans faire exprès. Il dit, j'ai pas fait exprès. Alors, écoutez bien le principe que nous dit la Gemara. Elle nous dit, Adam Mouad Leolam. Un homme est toujours responsable à 100% de ce qu'il fait.
Oui.
Il n'y a pas de 50%.
Il y a la raison.
D'accord. Non? L'homme.
Oui. Alors, on appelle un homme,
il y a pas.
Même.
L'homme est toujours Mouad. La Gemara, elle dira après, elle dit que Adam Mouad Leolam, un homme est toujours responsable, même s'il dort. Même s'il s'endort. Et dans son sommeil, quand? Il donne un coup, il envoie un coup et il casse quelque chose en cristal. Attends, je dormais, c'est pas n'importe quoi que vous voulez.
Et le choté alors?
On considère qu'un. Non, on parle pas d'un homme qui. On parle pas d'un fou, on parle d'un homme normal. On considère qu'un homme normal est responsable. Et même s'il est en train de dormir, il est responsable. Parce que c'est à lui de faire attention avant de dormir, qu'est-ce qui se trouve autour de lui. L'animal, je peux dire que bon, j'essaye de faire ce que je peux, mais je suis pas dans sa tête. Je sais pas ce qu'il fait dans sa tête. D'accord? Je peux pas prévoir, je peux pas tout prévoir. Ça, ok, on s'accorde, 50% dans certains cas. Et l'homme est toujours responsable. Adam Wad Lowalam. Ah, c'est... Je sais pas comment c'est dans la loi française, un homme est toujours responsable.
Mais justement, ils se battent pour le rendre irresponsable.
Non.
Ils se battent pour dire
la Torah.
Il a une impulsion d'arbitre.
Dans la Torah, un homme est toujours responsable.
Bien sûr, même dans la loi française.
Toujours.
À moins qu'il sorte du fou.
Oui, s'il est fou, voilà, parce que là, les circonstances dénuantes.
C'est pour ça qu'il se bagarre, pour le rendre fou, officiellement, les experts.
Oui,
les
déclarés,
il a eu la pulsion impossible.
Il n'a même pas jugé.
Mais un homme est toujours responsable.
Même pas jugé.
C'est pas forcément un avantage de le reconnu comme fou, non plus.
Alors,
il a
été
30 ans de prison, oui.
ADF, voilà, par exemple, imaginez-vous quelqu'un qui est en voiture, et que son frein il lâche, il a une voiture neuve, son frein il lâche. Ça peut arriver. Frein il lâche, il fait un accident. Je m'attendais pas.
Je retarde contre le constructeur.
D'accord, oui.
C'est pour ça qu'il y a des assurances.
Mais lui, il doit payer.
Oui.
L'assurance, elle paye. Maintenant, après, s'il veut entrer contre le constructeur, il fait ce qu'il veut. Oui. Mais il est responsable.
Bien sûr.
Après, tu veux entrer contre le constructeur, il n'y a pas de problème.
Bien sûr.
Alors, ADF, VAHARI, VADOV, VANAMER, VABARDELAS, VANARACH. Donc AZF, c'est donc c'est, on a ici le zoo exactement. Donc ZF, c'est comment ils traduisent le loup.
C'est déjà des animaux redoutables.
Véhari, le lion. Véhadov, l'ours. Véhanamer, le léopard ou la panthère.
Après, c'est la panthère.
Ou la panthère, non?
Juste après. Oui.
Le léopard et la panthère. Il y avait le léopard et la panthère en Israël. Il y avait.
Ah oui. Véhabardelas.
Hyène.
La hyène.
Ah voilà.
La hyène.
Oui, il y a la hyène.
Donc vous voyez, Namer, Namer, on traduit les deux en même temps.
Non.
Attendez,
le léopard et le panthère.
Il y a deux mots.
Oui, mais enfin, c'est la zamère.
Ouais, attendez,
deux mots pour chacun.
Ah non, la panthère, c'est la hyène. Ils disent que la panthère, c'est la hyène.
Alors, va Bardelas, donc la hyène, va Nahash et le serpent.
Il n'y avait pas de panthère.
Donc, c'est quoi le point commun entre tous ces animaux-là?
Ils sont
sauvages.
C'est des animaux sauvages.
Et
qu'on sait qu'ils ont dommages. Dans ce cas-là, Arelou Mouadim. Ces animaux-là sont responsables à 100% depuis le début. Ils sont mouades.
Ils sont sauvages.
D'accord? Et même si lui, juste, il est encore né juste en mordant quelque chose, que normalement, lui, il mord pas. Normalement, il casse tout. Mais une fois, il a mordu. Il dit, attends, moi, je m'attendais pas que mon animal morde. Il dit, non. C'est un animal dangereux. Il est toujours responsable, peu importe ce qu'il fasse. Il faut faire attention. Ouais. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Bisman Shem Benetarbout, lorsque c'est des animaux qui ont été, donc, domestiques, c'est-à-dire qui ont été dressés, Benetarbout, Tarbout en hébreu, c'est la culture. Lorsque c'est des animaux qui ont été cultivés, qui ont été dressés, Enam Wadim, dans ce cas-là, même si c'est des animaux comme ça, ils sont pas responsables. Ça veut dire qu'il faut.
Non, 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 je prends pas. Ils ne comptent pas comme
un peu.
Quoi?
Ils disent qu'au contraire, ils sont responsables.
Non.
Ah, ils comptent pas comme
averti. Non, s'ils comptent pas comme averti, s'ils ne comptent pas comme averti, ça veut dire qu'un animal qui n'est pas averti, on paye seulement 50%. C'est la vie de Rabbi Eliezer.
Oui, mais c'est sont sauvages.
Non,
responsable.
Justement.
Peut-être ça vient
50%.
La vie de Rabbi Eliezer, c'est quoi? La vie de Rabbi Eliezer, c'est qu'on peut apprivoiser un animal et on peut changer la nature d'un animal. C'est une nouveauté, ça.
C'est vrai?
Changer la nature d'un animal.
Sauf. Sauf le serpent. Va nachash moad leolam, le serpent est toujours responsable.
La rafale.
D'accord. Le serpent considère que lui, tu veux pas l'apprivoiser, il sera toujours en train de mordre, en train de casser. Ceci dit, d'accord. La halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer, puisque Mashiach n'est pas encore venu et les animaux d'aujourd'hui, le loup ne peut pas cohabiter avec l'agneau encore. Hein, on n'a jamais vu un loup qui a cohabité avec l'agneau. Donc, vous connaissez pas, une fois, il y a quelqu'un qui a mis une annonce dans le journal. Il a dit dans mon zoo chez moi. Le loup cohabite avec l'agneau. Il y a un monde fou qui venait, son zoo. Alors, on posait la question, il dit, mais comment vous faites? Comment vous faites pour, effectivement, on voyait un loup à côté d'un agneau. C'est un peu loin, mais on le voyait, le loup à côté d'un agneau. Alors, on lui a dit, mais comment vous faites? Et il a dit, c'est pas compliqué, tous les jours, j'amène un nouvel agneau. Mais je gagne plus en entrée que...
Bravo. Il mangeait bien, le loup.
Il mangeait bien, oui. Je lui ai dit, il gagnait plus en entrée. Lui aussi, il mangeait bien. Ma ben tam le mouad. Donc, quelle est la différence entre le tam et le mouad? Et la chea tam meshalem chatsin nezek migoufo. Ve a mouad meshalem nezek shalem in alia. Alors, il y a une autre différence encore à part entre le tam et le mouad, mis à part le fait qu'on a dit que le tam rembourse combien de pourcents du dommage? Le tam, 50. Alors que le mouad, il rembourse 100% du dommage. Ça, c'est une première différence qu'on a déjà dit. Il y a une deuxième différence à part ça, c'est quoi? C'est que le tam, il est meshalem chatsin nezek migoufo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un animal, dans le cas où on rembourse 50%, c'est-à-dire dans le cas où on le considère responsable partiellement, on peut se servir uniquement à hauteur de l'animal qui est endommagé. Vous me suivez? C'est-à-dire que même s'il est endommagé, voilà, par exemple, c'est intéressant ça, bah, imaginez-vous que vous avez une 4L qui a endommagé une Porsche, et bah, tu peux aller que jusqu'à à hauteur de la 4L. Tu peux pas aller plus loin que ça. Tu peux aller jusqu'à 100% de la 4L, mais tu dois rembourser 50% du dommage, mais à hauteur...
De ce que tu possèdes. Non, de ce que le bien a détruit.
De ce que le bien qui a détruit vaut. On appelle ça le migoufo. D'accord? Et sinon, on rajoute pas.
C'est une originalité, mais dans le droit français, c'est pas tout à fait.
Ah oui, bien sûr. Ah ouais, c'est original. Ça. Attention.
Si, il y a la valeur vénale.
Je vais pas jusqu'à la moitié de la 4L. Je vais jusqu'à 100% de la 4L. Mais ça peut pas dépasser.
Un gars, il a un marteau.
Non, on parle d'un animal. Ouais. Pas d'un animal. Mais Vamouat, lorsque c'est un taureau qui a été prévenu, dans tous les cas dans lesquels on a cité, dans lesquels on a payé 100%, dans ce cas-là, Meshalem, Nezek Shalem, bien sûr, il doit payer 100%, ça c'est sûr. Minar Alia, d'accord, Minar Alia, ça veut dire quoi? Alia, c'est-à-dire de ce qui est le plus haut, c'est-à-dire du meilleur de ses biens. C'est-à-dire non seulement qu'il peut dépasser la valeur de l'animal qui est encore né, mais il peut même pas se servir de l'animal qui est encore né, il peut directement aller se servir de son appartement, de ce qu'il veut. Il a le droit, puisque étant donné que l'animal était prévenu, dans ce cas-là, la personne est responsable à 100%. Donc on a deux différences entre le tam et le mouad. Première différence, tam 50%, mouad 100%. Deuxième différence, le tam peut être saisi uniquement à hauteur de la valeur de l'animal qui est encore né, alors que le mouad, on peut prendre tout ce qu'on trouve, d'accord? Et même s'il faut le mettre esclave pour ça, on le mettra esclave pour ça.
Enfin, il y a des barèmes quand même, non? Il y a des valeurs qui sont étudiées.
Oui,
il y a
un expert. Mais, dans le cas du tam...
Je prends ton ordinateur, je dis, mais tu te dois 200 euros, viens, je te l'ai donné.
Non,
je prends ton ordinateur.
L'expert, on a déjà dit. D'accord. Il y a l'expert, c'est évident. Mais dans le cas du tam, on ne peut pas se servir, on peut prendre que l'objet qui est endommagé.
D'accord.
Ça dépend. S'il a une Porsche. Si c'est une Porsche qui a endommagé une 4L.
Non, c'est l'inverse.
Alors pareil, on va se servir de la moitié, enfin pour rembourser la moitié du dommage, la moitié de la 4L.
On coupe la Porsche en deux, on la vend aux pièces.
On vend deux pièces, voilà, avec la jante, on rembourse la 4L. D'accord. Donc combien de cas on a cité ici? Je conclue avec ça. On a commencé un peu tard aujourd'hui.
On aurait dû en citer 5.
Oui, on a cité 5. Ouais. Donc on a cité 5 cas dans lesquels on est responsable à 100%. Est-ce que vous vous rappelez des 5 cas? On a cité le cas de la dent. Donc un animal qui a encore né en mangeant, enfin pardon, un animal qui a mangé, dans ce cas-là on est responsable à 100%. Deuxième cas qu'on a cité c'était le pied, donc un animal qui a piétiné dans son chemin. Troisième cas qu'on a cité c'est quoi?
Le bœuf dans l'habitude d'encorner.
C'est
le bœuf qui a l'habitude d'encorner.
Voilà, donc le bœuf qui a l'habitude d'encorner, donc ça veut dire que c'est pas la première fois que ça arrive. Quatrième cas.
Les animaux habituellement sauvages.
Non. Quatrième cas.
L'homme.
Non, c'est le cinquième. Voilà, dans une propriété privée. Et cinquième cas, c'est L'homme. Dans tous ces cinq cas-là, on est responsable à 100%. Après, dans la Mishnah, on nous a cité les animaux, parce qu'a priori, on a dit que selon la Halakha, c'est les animaux qui sont toujours considérés responsables, même si on les a apprivoisés. D'accord? On n'a pas dit le chien ici, hein. Est-ce qu'un chien, est-ce que c'est considéré un animal qui
est dommage? Par vous.
Ah non, ça c'est la vie de Rabbi Eliezer, mais on a dit que la Halakha n'est pas son Rabbi Eliezer.
Ah, c'est le meilleur ami de l'homme, en fait.
On n'a pas cité le chien, oui.
Mais le cheval.
C'est intéressant comme question, ça. Est-ce qu'un chien qui n'est pas muselé est considéré responsable à 100%?
S'il est habitué à mort et à rebord.
C'est pas un animal sauvage quand même.
Est-ce que le chien est considéré un animal sauvage?
Non, c'est pas un animal sauvage. Ni le cheval, ni le chien.
Le pitbull?
Et le pitbull.
Il a été ensauvagé. Même un caniche s'est énervé sur des bébés.
Oui, mais c'est pas fréquent. D'accord. Donc en tout cas, dans tous ces cas-là, on a expliqué que si c'est un animal qui est sauvage, on est responsable dès le début de 100%. D'accord. Même Rabbi Eliezer qui n'était pas d'accord, mais il était d'accord au moins sur le serpent, que le serpent n'est toujours responsable. Et enfin, on a expliqué que dans le cas du tam, on ne paye que 50% du dommage à hauteur du bien qui a commis le dommage. Et dans le cas du mouad, on paye 100% du dommage, on se sert de tout ce qu'on trouve, on peut se servir du meilleur de ses biens. Ça reste.